CDI Podcast. Entrepreneur de légende.
Bonjour et bienvenue sur CDI Podcast dans ce tout nouveau rendez-vous Entrepreneur de légende. Je suis Mickaël Icard et je serai accompagné dans ce podcast par Sylvain Bersinger qui est économiste et auteur de livres sur l'entrepreneuriat. Bonjour Sylvain.
Bonjour Mickaël.
Alors merci déjà d'être avec moi. Dans cette série de podcasts, on va ensemble s'interroger au parcours de ces entrepreneurs qui sont derrière la création des marques qu'on connaît tous. On ne connaît pas obligatoirement l'entrepreneur qu'il y a derrière. Et bien nous, on va tâcher de vous raconter ces histoires en France et à l'international. Alors ça sera l'occasion évidemment pour nous de découvrir l'histoire de l'économie avec un grand H au travers des yeux de ces entrepreneurs. Alors installez-vous, on commence.
CDI Podcast, entrepreneur de légende.
Alors notre premier portrait, il est dans l'univers de la distribution et plus précisément dans l'univers de la grande distribution française. Évidemment, il y a de très belles success stories qui pullulent dans l'histoire de la distribution et ce depuis l'invention, la création des grands magasins dans le 19e siècle. Mais nous aujourd'hui on s'intéresse à un nom bien moins connu que l'empire qu'il créa puisqu'on s'intéresse aujourd'hui à Marcel Fournier qui créa l'enseigne Carrefour. Alors Sylvain, tout commence dans les gènes de Marcel Fournier, puisqu'il faut savoir que toute sa famille était déjà dans le commerce.
Oui, en effet, Marcel Fournier, c'est un Annécien. Sa famille est présente à Annecy depuis très longtemps, et c'était des riches propriétaires terriens de la région. Et au début du 19e siècle, un ancêtre de Marcel Fournier a créé une mercerie, donc un commerce aujourd'hui un peu disparu, où on vendait des aiguilles, du fil et tout ce qu'il faut pour faire la couture. Et cette mercerie s'est transmise alors de père en fils, puisque les Fournier étaient des catholiques très conservateurs, et donc c'était toujours le fils aîné qui reprenait l'affaire. Et donc entre le début du 19e siècle et jusqu'au 20e siècle, la mercerie restait dans la famille. Alors elle a parfois changé un peu de place dans Annecy. Au début, c'était une petite boutique du centre-ville. Ensuite, elle s'est dirigée plus vers la gare quand le train est arrivé pour être plus centrale sur les nouveaux quartiers. Mais voilà, c'est vraiment une famille de commerçants depuis plus d'un siècle. Donc Marcel Fournier est né en 1914 et sa famille est dans le commerce depuis à peu près 100 ans sur Annecy au moment de sa naissance.
Oui, il faut savoir que la naissance de Marcel Fournier en 1914, bah évidemment, ça coïncide avec la Première Guerre mondiale. Cette guerre mondiale, elle va avoir des incidences sur l'entreprise familiale parce qu'il va y avoir des changements qui vont avoir lieu.
Alors, il y a le père de Marcel Fournier, donc Eugène Fournier, qui part au front, qui est blessé, qui gardera d'ailleurs un sentiment anti-allemand très viscéral, et ce qui peut expliquer le fait que toute la famille était résistante. On en reparlera sûrement pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, disons d'une manière générale, la période de la guerre, c'est une période assez difficile pour le commerce, parce que c'est toute l'économie française qui est impactée. Le PIB français a baissé d'un quart entre 1914 et 1918, donc forcément, l'entreprise, à ce moment-là, se porte pas particulièrement bien. C'est la mère de Marcel Fournier qui gère l'entreprise, parce que lui, bien sûr, est tout petit, il est bébé, donc le père est au front et ensuite blessé. Donc c'est une période un peu difficile pour la mercerie Fournier, mais elle parvient à survivre et à surmonter cette épreuve.
Donc elle déménage encore pendant la guerre.
Oui, alors elle déménage plusieurs fois. Je me rappelle plus exactement de tous ces déménagements successifs. Mais comme je le disais, l'idée des Fournier, c'est de se rapprocher des quartiers de la gare avec un magasin plus grand et sur des quartiers qui deviennent plus commerçants que le centre-ville d'Annecy, où là on a plus des petites boutiques, où il y a moins d'espace pour faire du commerce.
Pendant ce temps, donc après la guerre, Marcel Fournier, il rentre à l'école, il commence à grandir, il commence un peu à s'intéresser aux choses de la vie, mais aussi à la politique. Il est intéressé rapidement par tous ces univers-là, ce qui va entraîner qu'à un moment, il va être intégré à nouveau à l'entreprise.
Oui, donc comme je le disais, la mercerie Fournier, c'est toujours le fils aîné qui l'avait reprise. Et Marcel Fournier va effectivement reprendre la mercerie. Alors c'était un bon élève, Marcel Fournier. Il aimait bien les études, il était doué. Il aurait pu faire de grandes études, mais il avait un peu le virus du commerce. Il aimait beaucoup l'entrepreneuriat, notamment Henry Ford. Il avait dévoré des biographies d'Henry Ford. C'est quelqu'un d'ambitieux qui voulait réussir dans le commerce, et donc il a logiquement repris la mercerie. Alors il a commencé en bas de l'échelle.
Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a vraiment commencé tout en bas.
Chez les Fournier, ce sera vrai après chez Carrefour, on pistonne pas le fils ou le neveu pour le mettre dans un bureau confortable. Chacun doit faire ses preuves, donc on commence au bas de l'échelle à faire les petits boulots un peu ingrats. On apprend le métier sur le tas, on fait ses preuves. Et après, effectivement, au fur et à mesure des années, dans l'entre-deux-guerres, il a pris la place de son père à la tête de l'entreprise.
Et là, il se révèle être vraiment, vraiment, vraiment doué pour le commerce, puisqu'il arrive à développer un peu plus l'entreprise familiale.
Oui, alors ça reste une grosse mercerie sur Annecy. On est encore très loin de ce que sera Carrefour dans le futur. Mais oui, c'est quelqu'un de travailleur, d'intelligent, d'ambitieux, et oui, qui aime les affaires, qui aime le monde de l'entreprise. Donc oui, on peut dire que c'est un bon chef d'entreprise.
Ouais. Oui, donc en fait, le profil de Marcel, c'est évidemment d'être très dynamique. Il dynamise sa société, la société familiale, mais il est freiné dans l'ascension par la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, alors un peu comme son père au cours de la Première Guerre mondiale, hein, il est appelé donc sous les drapeaux et il est blessé en mai ou juin 40, enfin dans les premiers combats.
Il est blessé au tout début, quoi.
Il est blessé au tout début de la guerre, voilà. Bon, de toute façon, l'armée française s'est pas combattu très longtemps, mais il a été blessé au début des combats.
Oui, donc il a vécu la défaite de l'armée.
Voilà, il était, disons, en première loge. Oui, il a été blessé. Donc après, bah, évidemment, l'armée française s'est effondrée. Il est revenu à Annecy. Bon, c'était pas une blessure qu'il a laissée invalide. C'était une blessure, disons, assez légère. Et donc, évidemment, la société, la mercerie, comme au cours de la Première Guerre mondiale, a tourné un peu au ralenti pendant la Deuxième Guerre. Il faut rappeler que le PIB français s'est effondré de moitié entre 1940 et 1945. Donc, c'est un choc énorme. Et l'événement notable pendant la guerre, c'est quand même que Marcel Fournier et toute sa famille ont été de très grands résistants sur Annecy.
Oui, c'est ça, c'est qu'une fois qu'il est sorti de l'hôpital, ils ont décidé de s'engager dans le combat de Charles de Gaulle.
Voilà, c'est alors le frère de Marcel Fournier a rejoint de Gaulle dans les tout début, hein, parmi les premiers gaullistes.
C'est Jean, le frère de...
Voilà, Jean Fournier qui a rejoint de Gaulle, et sur Annecy, toute la famille Fournier a entré dans la résistance, donc... Ils ont notamment travaillé avec les maquis sur les glières, les dents de l'enfant, etc. Et j'ai lu dans une biographie que Marcel Fournier a même rencontré Jean Moulin, alias Max, pendant qu'il...
C'était le surnom de
voilà,
Jean Moulin,
Voilà, c'est Max. Le surnom de Jean Moulin. Il était sur Lyon, dans la région, et eux, parfois la nuit, avec des voitures sans plaque d'immatriculation, allaient passer des messages et autres dans la région. Et donc c'est vraiment devenu une figure importante de la résistance sur Annecy, Marcel Fournier, et les Fourniers en général.
Et en parallèle, ils continuent à faire fonctionner leur magasin.
Voilà. En parallèle, la mercerie continue à fonctionner. Alors, comme on l'a dit, un peu au ralenti, hein, c'est pas une période très porteuse pour les affaires, mais la boutique n'a jamais arrêté de fonctionner. Ouais, le business a survécu à la guerre. Oui.
Alors, après la guerre, son passé de résistant et puis sa motivation et son intérêt pour la politique depuis jeune, ça fait qu'il s'intéresse un peu aussi à la politique locale. Il commence à prendre un peu de responsabilité.
Oui, après la guerre, c'est une figure assez influente parce qu'il a le passé de résistant. Tout le monde un peu sur Annecy sait que ça a été un grand résistant. Donc, il a un peu cette auréole. Il s'intéresse un peu à la politique. Il aurait probablement pu faire une carrière politique sur Annecy, de maire ou député ou autre. Mais il préfère rester dans les affaires. C'était vraiment son truc. Il avait le virus du commerce, disons. Et il préfère abandonner la politique. Alors qu'une carrière aurait pu s'ouvrir à lui, il préfère retourner dans le commerce familial, essayer de développer l'entreprise familiale.
Mais c'est ce qu'il fait, puisqu'ils ouvrent une deuxième mercerie à Annemasse.
Voilà, oui, en 1946, ils ouvrent une deuxième mercerie, donc près de la frontière suisse. Et il essaie de développer son entreprise autant qu'il peut. Et c'est justement là qu'il va petit à petit fonder Carrefour. Ouais.
Notamment parce qu'il voyage aux États-Unis.
Oui,
c'est un tournant en fait.
C'était un de ses frères qui était en poste à Washington, je crois. Et il va le voir, il voyage aux États-Unis. Et les États-Unis avaient de l'avance en matière de distribution, oui, d'automobiles, etc. Et donc ce voyage, ce premier voyage, puisqu'après il en fait d'autres. Mais il découvre le mode de vie à l'américaine, qui à l'époque était clairement en avance sur la France. La France qui sortait tout juste de la guerre et qui était encore très, très marquée économiquement et socialement. Et donc il y a un peu des idées qui commencent à germer en lui. Il se dit oui, on peut faire du commerce autrement, on peut faire... Il y a des premiers supermarchés aux États-Unis, l'embryon de ce qui deviendra la grande distribution qui est en train de naître, et il voit ça. Et oui, ça lui donne un peu des idées, ça travaille un peu dans sa tête, oui.
Et du coup, quand il revient en France, après ses rencontres, il avait des conférences et tout, il décide de dépoussiérer un petit peu sa boutique, ce qu'il faisait, et il change un peu de style, il commence à soigner la publicité, à changer un peu le style de fonctionnement de sa communication et même de sa boutique en France.
Oui, alors il essaie, par exemple, il importe le nylon, c'est un des premiers qui commercialise du nylon en France, donc il essaie effectivement de dépoussiérer sa société, mais pour l'instant, c'est encore une mercerie, je dirais, assez traditionnelle. Alors il essaie par exemple de mettre en place le libre-service, puisqu'on l'a complètement oublié aujourd'hui, mais jusque à peu près en 1945, la plupart des commerces, il n'y avait pas de libre-service, c'est-à-dire qu'on rentrait, on demandait au commerçant le produit qu'on voulait, et c'était le commerçant qui nous servait. Parfois même, il y avait des boutiques qui interdisaient de ressortir sans achat. Et l'idée de pouvoir toucher les produits, les prendre, les reposer en rayon, se servir, etc. Alors en fait, c'est quelque chose qui date de l'après-guerre, hein, qui est en fait assez nouveau.
Il commence à y avoir un peu de la concurrence pour sa mercerie, puisque les grands magasins commencent à s'intéresser aussi à ce type de commerce. Il commence à lancer des enseignes qui vont le concurrencer. Donc pour lui, il se dit, c'est le moment de changer.
Oui, alors c'est vrai que les grands magasins parisiens avaient dès le début du XXe siècle commencé un peu à essaimer en province avec sur des formats un peu plus petits. Donc la mercerie avait déjà eu cette première concurrence-là. Mais je pense que ce qui est déterminant dans le parcours de Marcel Fournier et du futur Carrefour, c'est bien sûr Leclerc.
Oui.
Donc Leclerc qui a vraiment été le précurseur du supermarché en France, donc qui a commencé en Bretagne, hein, à Landerneau. Après, il a essaimé dans toute la Bretagne et il commence à se diversifier, quoi, à s'étendre partout en France, notamment à Grenoble. Et il commence à s'intéresser à Annecy aussi.
Et donc, du coup, là, Marcel Fournier voit ça et il se dit, j'ai pas envie de laisser la place à...
Marcel Fournier, jusqu'à présent, il était vraiment spécialisé dans la mercerie. Mais avec ses voyages aux États-Unis, avec ce qu'il voit de Leclerc, avec ce qu'il voit des évolutions, il se dit, il y a peut-être un marché à prendre sur le supermarché, en fait, la grande distribution naissante. Donc Marcel Fournier, comme il faisait que de la mercerie, il n'avait pas beaucoup de connaissances sur tout ce qui est l'alimentaire, notamment. Donc c'est pour ça qu'en fait, Carrefour est lancé avec un... On se souvient de Marcel Fournier, parce que c'est un peu la figure emblématique, c'est lui qui a dirigé l'entreprise très longtemps. Mais il lance son premier supermarché avec un associé, donc la famille Desforêts, qui étaient eux plus spécialisés dans l'alimentaire. Donc c'est une association à 50-50, ce qui est assez, ce qui mérite d'être noté, parce que souvent on dit qu'il ne faut pas créer une entreprise à 50-50, puisque s'il y en a un des deux qui se dispute, vu que les deux ont 50% des voix, eh ben ça bloque complètement la société. Et lui, il dit non, parce qu'à 50-50, comme ça, on est obligé de s'entendre. Donc il y a une petite originalité dans l'association entre Fournier et son associé Desforêts.
Ouais, mais ça correspond aussi en même temps un peu au caractère qu'avait Marcel Fournier depuis le début.
Oui, c'est quelqu'un qui... C'est pas du tout un intellectuel, c'est un fonceur. C'est quelqu'un qui a des idées, qui a une façon de penser, qui la met en œuvre et qui fonce.
Et donc du coup, c'est intéressant, puisque là, il commence à se demander ce qu'il va lancer comme magasin, et donc ça se profile d'être un supermarché.
En fait, il va copier Leclerc. Hein. Leclerc a déjà commencé à populariser le supermarché en France, et à ce moment-là, Fournier n'invente rien. C'est-à-dire qu'il voit le concept Leclerc qui marche, il voit qu'il est en train de se rapprocher d'Annecy, et il se dit, bah, y a un concept qui marche aux États-Unis, que Leclerc a fait marcher en France. Beaucoup de gens croyaient que les Français n'accrocheraient pas pour des raisons culturelles et autres au supermarché. En fait, Leclerc montre que ça marche. Et lui saute dans cette roue, en fait, et ouvre son premier supermarché à Annecy.
Et il va lancer, donc, du coup, Carrefour. Et d'ailleurs, c'est intéressant, le nom Carrefour, d'où ça vient ?
Alors, le nom Carrefour, ça vient tout simplement que c'était situé à un carrefour. Donc, en fait, il a...
C'est fou, ça.
Oui, voilà.
En fait... Moi, quand j'ai appris ça, je me suis dit, c'est fou. C'est fou.
Alors, en fait... C'est pas directement le supermarché, c'est-à-dire que Marcel Fournier avait créé une société dans l'immobilier, mmh. Il avait des placements immobiliers aussi, et il avait donc des locaux de sa société immobilière qui étaient situés à un carrefour, et donc à l'époque, c'était le nom de cette société Carrefour n'était pas censé devenir une marque, c'était juste le nom de la société immobilière qu'il avait appelée Carrefour, comme ça. Et donc quand il crée son supermarché, il se demande comment je vais l'appeler. Alors la première idée qu'il a, c'est Agora, pour avoir l'idée un peu d'un endroit, ah oui, où il y a beaucoup de monde. Mais il dit Agora, les gens vont penser à Angora, ils vont se dire c'est une animalerie. Ah oui. Donc il dit c'est pas une bonne idée. Alors il a pas trop d'idées, il se dit bah voilà, Carrefour, je suis un Carrefour, ma société s'appelle déjà Carrefour, et voilà, Carrefour c'est né un peu comme ça, en fait.
Il installe son supermarché donc au rez-de-chaussée de cet immeuble, donc où il y a la société Carrefour. Et ouais. Il se lance dans le monde du supermarché, quoi.
Voilà, c'était un immeuble dans lequel il avait les locaux de sa société immobilière. Il y avait un espace vide, un grand espace vide au rez-de-chaussée. Et donc, il installe Carrefour dans cet espace. Donc, c'est un supermarché au début. Donc, un supermarché, c'est un magasin de 400 à 2500 mètres carrés. Au-delà, ce sera l'hypermarché. Ce sera le sujet dans un instant. Et donc, il installe là-dedans, dans cet espace, son premier supermarché Carrefour.
Et ça marche.
Ça marche, oui, ça marche. Alors je dirais pas que c'est mirobolant, mais ça marche, oui.
mais ça marche quand même assez pour donner envie d'ouvrir d'autres supermarchés derrière.
Oui, ça marche assez bien. Et donc, il comprend que Marcel Fournier comprend que le concept du supermarché a vraiment sa place en France. Ce que Leclerc avait déjà un peu montré, mais ce qui est confirmé avec ce premier magasin. Et donc, il a évidemment envie de s'agrandir assez rapidement. Donc, il achète des terrains dans la région lyonnaise, du côté de Paris aussi. Et notamment, il achète un grand terrain. Alors, sans trop savoir ce qu'il va en faire au début, puisque dans le supermarché, le principal problème, c'est le terrain. C'est d'avoir un local ou un terrain suffisamment grand et suffisamment bien placé. Donc, il achète des terrains à plusieurs endroits en France, sans être certain de la manière dont il va les utiliser. Et pour la suite, ce qui est très important, c'est qu'il achète un terrain dans le sud de Paris, à Sainte-Geneviève-des-Bois. Et ce terrain deviendra, quelques années plus tard, en 1963, le premier hypermarché de France et même du monde. Et c'est là que Marcel Fournier va vraiment innover.
Mais du coup, quel est le chemin, quel est le processus pour aller de ce supermarché à cet hypermarché qui est une révolution ?
Oui, alors, comme je le disais, un supermarché, c'est un magasin de 400 à 2500 mètres carrés. Au-delà, on passe dans l'hypermarché. L'hypermarché, c'est vraiment l'invention de Marcel Fournier. C'est-à-dire que
ça n'existait pas.
Ça n'existait même pas aux États-Unis. Et aux États-Unis, le gourou de la distribution, qui était Bernardo Trujillo, alors je ne suis pas sûr de la prononciation.
Oui, il ne nous écoute pas.
Il ne nous écoute pas, on va le prononcer comme ça. Qui était un Américain d'origine colombienne, qui était le gourou de la distribution mondiale. C'est un peu lui qui a posé les bases de la grande distribution. Il y a beaucoup de gens qui sont allés l'écouter, des Français et autres. Hein, Bernard Darty, Gérard Muliez, les fondateurs d'Accor. Et bien sûr, Marcel Fournier aussi, sont allés aux États-Unis l'écouter. Ils donnaient des grandes conférences qui étaient un peu la messe de la grande distribution naissante. Et ben, l'idée de Marcel Fournier, c'est de se dire, ok, mon supermarché marche bien, pourquoi pas faire plus grand. Et donc, il a cette idée-là sur son terrain de Sainte-Geneviève-des-Bois, avec un magasin donc, au-delà de 2500 mètres carrés. Et pas grand monde n'y croit, il faut le dire, dès le début. Même son mentor, Bernardo Trujillo, qui on l'a dit, le gourou de la grande distribution, il se dit, c'est quand même bizarre ce truc-là.
C'est trop grand.
Voilà, même aux États-Unis, personne ne l'avait fait. Donc pourquoi le faire tout d'un coup en France ? Et les gens sont très sceptiques, hein. Les banques sont assez frileuses, ils financent ça avec des amis, sa famille, des gens qui croient un peu en lui. Et il porte ce projet, et donc en 1963, il ouvre le premier hypermarché du monde. Et il faudra attendre 4 ans en France pour qu'il y ait un autre hypermarché qui s'ouvre, tellement les gens étaient frileux. Mais pourtant, c'est un succès énorme, quoi. Dès le début, les clients se ruent et il est, je dirais, presque victime de son succès, dans le sens où il a du mal à trouver suffisamment de personnel, à s'approvisionner, parce que ça, c'est quelque chose qu'on oublie aujourd'hui. Mais à l'époque, il y avait beaucoup d'entreprises qui refusaient ou qui traînaient des pieds pour livrer la grande distribution, puisque les petits commerçants s'étaient regroupés.
C'était vu comme le diable.
Voilà, il y avait des syndicats, disons, appelons ça comme ça, de petits commerçants qui faisaient pression sur les distributeurs pour pas qu'ils livrent les hypermarchés et supermarchés. Et une des grandes difficultés des Leclerc et Carrefour à leur début, c'était d'arriver à se faire approvisionner. Ça paraît un peu incroyable, mais ils avaient du mal à remplir leurs rayons.
Et la force de cet hypermarché aussi à Sainte-Geneviève-des-Bois, c'est qu'ils pensent un grand parking aussi pour mettre tous les véhicules où, voilà, les gens vont pouvoir venir et avec leur voiture faire leurs courses et repartir.
C'est sûr qu'on est sur un mode une conception du commerce complètement nouvelle. Donc centré sur la voiture, clairement, hein, c'était le dicton « no parking, no sale », donc pas de parking, pas de vente. Il fait des grosses promos sur l'essence pour attirer les clients qui viennent faire le plein et en même temps faire leurs courses dans le supermarché. Et donc c'est une révolution qui est permise, donc, bien sûr, par la naissance de l'automobile et aussi par la naissance du frigo, du réfrigérateur, puisque sans frigo, on était obligé d'aller faire ses courses un peu tous les jours. Et là, maintenant, avec le frigo, on peut faire ses courses pour la semaine ou pour 15 jours. Et on remplit son chariot, on remplit son coffre et on remplit son frigo. Donc en fait, il y a des évolutions technologiques en fait, qui se répandent dans la société et qui rendent le concept du supermarché et de l'hypermarché possible, alors qu'avant, ça l'était pas.
Et du coup, il prend de vitesse la concurrence en France.
Alors sur l'hypermarché, il prend de vitesse typiquement... il prend de vitesse tout le monde, hein, pas qu'en France. C'est vraiment l'inventeur de l'hypermarché en fait. Il a repris un concept qui existait du supermarché, mais son invention, c'est d'avoir fait la même chose en plus grand en fait. En gros, en deux, trois fois plus grand à peu près.
Donc du coup, évidemment, tu l'as dit, hein, c'est un succès et ça va s'arrêter aux frontières de la France puisque rapidement, il y a un lancement à l'international.
Oui, alors Carrefour s'est assez vite développé. C'est un des premiers distributeurs français qui, dès 1969, se lance à l'international. Donc notamment en Europe et au Brésil, ils sont très présents au Brésil aussi. Et ils sont arrivés, alors aujourd'hui c'est plus le cas je crois, mais ils ont été le deuxième distributeur mondial derrière l'américain Walmart au tournant des années 2000.
Eh ben, en plus, dans l'imaginaire des gens, Carrefour, on voit bien un Carrefour s'implanter un peu partout.
Voilà, tous les Carrefours du monde entier.
Exactement. Et donc, du coup, le succès, évidemment, est encore une fois au rendez-vous à l'international pour Marcel Fournier. Mais lui, petit à petit, il se retire des affaires.
Oui, il avait dit qu'il se retirerait à 65 ans. Donc, c'était un peu l'objectif qu'il s'était donné. Donc, à 65 ans, en 1979, il se retire. Il laisse la direction de l'entreprise à son associé Denis Desforêts, la famille avec qui il avait cofondé le Carrefour à ses débuts. Et il se lance un peu dans le journalisme après avoir quitté Carrefour. Donc c'était un homme de droite, clairement. Et il finance des journaux politiquement à droite.
De droite, mais d'ailleurs, dès le début de sa jeunesse, il oui. était contre l'extrême droite, quoi. Vraiment, il avait...
Oui, c'était une famille de conservateurs, mais gaullistes, en fait. Voilà. Hein, donc ce qui a expliqué notamment leur engagement dans la résistance. Ils étaient complètement opposés à Hitler, Mussolini, etc. C'est vraiment une famille, je dirais, gaulliste, oui. Et donc il a financé, travaillé avec des journaux après sa retraite, retraite entre guillemets, puisqu'il n'était plus à la tête de Carrefour, mais qu'il continue à travailler. Et en fait, il est mort peu après, en 1985, il est décédé d'un cancer.
Mais bon, Carrefour, évidemment, continue son ascension. Ce qui est fou, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est un des entrepreneurs qui n'a pas décidé de laisser son nom à la marque qu'il créa. Puisque du coup, on l'a dit, il décide de donner le nom de Carrefour, mais qui n'avait pas hésité à aller prendre les bonnes idées là où elles étaient. Parce que par exemple, si on prend l'exemple de Leclerc, il ne s'est pas trop inspiré des États-Unis. Il n'est pas trop allé voir ce qui se faisait aux États-Unis pour lancer.
Non, Leclerc, c'est un peu différent. Leclerc, en fait, il a commencé donc à Landerneau. Il a commencé avec au début, il vendait même dans sa maison, dans sa cuisine. Hein. Il vendait des biscuits à prix cassé. Après, il a commencé à construire un petit hangar de moellons, toujours où il vendait. En fait, Leclerc, au début, il fait plus du discount, je dirais. Mmh. Et petit à petit, il invente, d'autres le faisaient déjà aux États-Unis, mais il invente, disons, le supermarché à la française.
On va pas trop parler de Leclerc, parce que peut-être qu'on en parlera.
Voilà, ça peut faire l'objet d'un podcast.
Notre épisode. En tout cas, ben, merci beaucoup Sylvain.
Merci à toi.
De m'avoir accompagné pendant ce podcast. Évidemment, je le dis, je ne l'ai pas dit en intro, mais on peut retrouver plein de portraits passionnants dans ton dernier livre, Les Entrepreneurs de légende français, aux éditions Hendrik B. Et puis sinon, vous pouvez seulement patienter et attendre qu'on aborde ensemble une autre histoire d'entrepreneur dans le prochain épisode d'Entrepreneurs de légende sur CDI Podcast. À très bientôt.
CDI Podcast. Entrepreneur de légende.